ici Radio Grand Ciel, studio de Châteaudun. Nous accueillons aujourd'hui pour notre émission Écho de ma commune, Madame Christine Bentabek, qui est la directrice, la gérante de notre cinéma bien connu à Châteaudun, le Dunois. Bonjour Christine.
Bonjour. Bonjour.
Et puis tu seras interviewé par Jean-Claude, qui est un vieil historien de Châteaudun, qui nous racontera tout sur les origines des cinémas dans la région, et avec Jean-Marie pour la régie et aussi Henri pour l'interview. Alors donc, ce cinéma, c'est déjà une histoire de famille. Votre père lui-même, nous l'avons connu derrière la vitre. Ainsi que votre maman, d'ailleurs, lorsque nous prenions les billets d'entrée.
Oui, tout à fait. Même plus, vous voyez, vous aviez plutôt l'habitude de voir ma maman qui, elle, était à la caisse, comme moi, un petit peu maintenant, et mon papa qui était en cabine, puisque en effet, ils ont acheté leur premier cinéma à Châteaudun dans les années 70. Mais ce n'était pas le Dunois, c'était à l'époque le Concorde, qui se nommait, avant qu'ils arrivent, puisque c'est ma maman qui l'a débaptisé, il se nommait le Pax.
Oui, alors justement, à Châteaudun, c'était quand même une ville de cinéma, parce que il y avait dans les années 20 donc le Pax, et puis dans les années un petit peu avant la guerre, donc la construction par Monsieur Joliot donc du cinéma Dunois, qui était un cinéma pour l'époque extrêmement moderne pour l'époque. C'était quelque chose de très important, avec une grande salle, avec des sièges confortables. C'était quelque chose de très important. Et donc de cette époque, Châteaudun avait gardé une image à 20 km à la ronde, 30 km à la ronde, on venait au cinéma Châteaudun, parce qu'il n'y avait qu'à Châteaudun qu'il y avait du cinéma. Et c'était l'époque extraordinaire, parce que au moment où donc le Dunois a été construit, c'était l'époque hollywoodienne, donc avec le cinéma américain qui diffusait donc dans le monde entier, et évidemment aussi le cinéma français, avec ses grandes vedettes, quoi, qui attiraient le monde. Et donc, votre famille est arrivée donc, dans ce milieu cinématographique, quoi, pour faire perdurer un petit peu. Et puis, et certains, donc, même un troisième cinéma à Châteaudun, qu'on verra plus tard. Donc, vraiment, c'était une ville de cinéma. Et donc, est-ce que ça n'a pas, justement, ce fait dans la recherche un petit peu, est-ce que ça n'a pas incité vos parents à dire, après tout, le cinéma à Châteaudun, oui, ça peut être quelque chose d'intéressant?
J'étais beaucoup trop petite pour savoir exactement ce qui avait motivé mes parents à venir s'installer à Châteaudun. C'est vrai que bon, la ville était attrayante, c'est vrai qu'il y avait ces trois cinémas, mais il faut aussi savoir, je crois qu'après, quelques années plus tard, il y avait aussi des cinémas à Bonneval, il y en avait un à Cloyes, et ça existait aussi un petit peu aux alentours.
Oui, mais Suite Loi a fermé plus tard, bon, oui. Parce que, mais c'était quand même toute une organisation, parce que un cinéma, c'est quand même des infrastructures, c'est quand même de la technique, c'est pas simplement les, puis également c'est le choix des films.
Oui,
parce que,
c'est
donc,
vrai.
Donc il y a tout autour de cela, bon, parce que un jour j'interviewais entre guillemets un directeur de cinéma de Cloyes, et qui me disait, je lui disais, mais les films à thème, on n'en voit pas beaucoup. Il m'a dit, monsieur, quand je fais un film à thème, je n'ai pas grand monde, mais quand je fais un film avec Fernandel, je remplis la salle. Alors, comment justement vos parents ont-ils pu un petit peu attirer? Parce que donc, ils sont arrivés vers quelle époque, vous avez dit?
1970.
1970. Donc à l'époque, il y avait encore nos grandes vedettes françaises qui tournaient quand même, non?
Oui, c'est clair. Oui, oui, c'est clair. Mais en fin de compte, c'était un petit peu plus compliqué que ça. C'est que donc il y avait donc trois cinémas avec deux propriétaires. Et ce qui se passait, c'est que chaque cinéma travaillait avec une maison de distribution. Donc du coup, par exemple, une chose qui m'a frustrée moi quand j'étais petite et pendant très longtemps, avant que mon papa rachète tous les trois cinémas, mon père ne travaillait pas avec Disney, par exemple. Il ne pouvait passer aucun film de Disney. Donc à chaque Noël, je n'avais pas la joie de voir le dessin animé de Noël parce qu'il n'était pas dans le cinéma de mes parents. Donc bon, j'avais la chance que ma maman m'emmène, alors pas à Châteaudun parce que l'entente n'était pas cordiale, hein, on était dans une période de grosse concurrence, mais j'allais allée à Orléans avec ma maman voir le Disney parce que j'étais frustrée de ne pas pouvoir le voir. Mais donc, en fin de compte, mes parents travaillaient. Ils avaient, les maisons de distribution, c'était partagé les salles de cinéma de Châteaudun. Donc, mes parents travaillaient, par exemple, avec des maisons qui n'existent plus. C'est AMLF qui, maintenant, est Paramount, si vous voulez. Pour les Américains, ils travaillaient avec Warner, mais donc pas avec Disney ni avec Fox. Enfin, voilà, c'est comme ça. Donc, le choix était moins important au niveau des films. Et il était régi par le fait qu'ils ne pouvaient pas vraiment choisir. Ils passaient les films du distributeur avec qui ils avaient un contrat.
Oui, parce que Dulois, par exemple, pendant la période d'occupation, passait surtout des films de la fameuse Continentale, qui était en fin de compte un petit peu donc à l'origine allemande, quoi, avec une entente française. Et donc on diffusait les films de Continentale, évidemment. Donc il y a tout un, excusez-moi l'expression, un business autour du cinéma. Parce que bon, c'est quand même un milieu, certes, on voit les vedettes, on voit les metteurs en scène, les producteurs, bon, qui sont des personnages extrêmement importants pour le cinéma. Mais tout autour du cinéma, à une époque, il y a même eu, pour rentabiliser, entre guillemets, les cinémas, le Dunois, à Châteaudun, par exemple, faisait venir quelques vedettes. Et nous avons vu à Châteaudun Johnny Hallyday, Rivers, Aznavour dans les années 60, quoi. Donc avant les cinémas, justement, où aux entr'actes remplissaient un petit peu, faisaient des attractions.
C'était tout un spectacle. En effet, à l'époque, c'était une autre époque avec une entr'acte, comme vous le disiez, avec des attractions et des animations entre avant le séance et avec les publicités et tout. Et oui, j'ai bien entendu ça, qu'en effet, Johnny Hallyday, je crois qu'il y avait d'autres, il y a eu Sylvie Vartan même, enfin, plusieurs actrices et enfin, plusieurs chanteurs sont venus, mais parce qu'à l'époque, en plus, il n'y avait pas d'offres à accueillir, il n'y avait que le cinéma.
Oui, puis le cinéma avait le Dunois avait une grande salle.
Oui, il y avait, quand on est arrivé, enfin quand mon papa a acheté, il y avait quasiment 1000 places déjà dans les années, dans les années 85, je crois, quand il a acheté, il y avait 1000 places.
Et certains films où il fait plein.
Ah oui, j'ai vu des salles, des films où on a fait le plein et même qu'ils refusaient à l'époque. Hein, c'était.
Alors justement, quel film à l'époque pouvait faire le plein? Vous vous rappelez pas?
Je me souviens des films avec Coluche à l'époque, comme Bonsaï ou des choses comme ça qui faisaient le plein. Oui, les Belmondo aussi. Des films d'action ou de Belmondo qui faisaient le plein, comme j'ai plus dans la tête, mais bon, tous les films d'action de Belmondo faisaient le plein, voilà. Mais c'était très régulier que les salles de cinéma étaient pleines, hein, le week-end.
Oui, parce que moi je me rappelle d'une séance de cinéma du Noir qui était Les Misérables de Le Chat Noir, donc à l'époque avec évidemment Sylvia Monfort à l'époque et. J'étais venu à cette séance, ce cinéma était plein à craquer. C'était une acte de centre-ville de Châteaudun, puisque c'est un peu le centre-ville. Ça, parce que tous ces gens qui sortaient du cinéma, vers 11h30, minuit, là, c'était quelque chose d'important, Châteaudun.
Oui, mais c'était une autre époque. Il y avait moins de chaînes de télévision, il n'y avait pas les plateformes, il n'y avait pas plein de choses comme ça. Hein. Si on voulait voir un film, la plupart du temps, il fallait le voir au cinéma, et non pas à la télévision.
Vous parlez des artistes qui venaient, mais tout récemment, vous avez fait venir de grands artistes. Et j'imagine que la salle était pleine, puisqu'il y avait la queue dans la rue très, très loin.
Pour les Baudins, vous voulez dire ? Oui, tout à fait. Oui, on a eu la chance que les Baudins se fassent dans la région centre, puisque le film ne sortira qu'au niveau national que le 17 novembre. Et en effet, on a eu la chance qu'ils viennent. Et là, il aurait fallu que la salle, elle contienne le double de personnes. En effet, c'était plein à craquer. Ce genre de petit événement et fait plaisir aux gens. Et ça fait plaisir aussi de voir que les gens peuvent se déplacer en masse au cinéma à ces moments-là, oui.
Alors, vous avez donc... Vous êtes en poste et vous avez donc plusieurs multifaces. Vous avez tout l'entretien. Autrefois, votre père montait à la cabine pour faire tourner le film. Et maintenant, la technologie de projection a beaucoup progressé. Vous ne véhiculez plus des grandes bobines très lourdes, mais des CD, des DVD.
Des disques durs. Ce sont des disques durs. Oui, en effet, il n'y a plus de pellicule. Les films à l'époque pesaient à peu près entre 40 et 45 kilos et il fallait les monter les bobines les unes au bout des autres. Enfin, c'était tout un travail. Maintenant, en effet, le disque dur pèse à peu près 500 grammes. Dedans, il y a le film. Et puis, il y a juste à l'ingérer dans les unités centrales du projecteur. C'est un travail complètement différent. Mais qui a encore, où il faut encore prendre du temps parce qu'il y a toute une mise en place du programme, de la première partie, des publicités. Des films annonces, enfin voilà, il y a toute une technologie encore, mais complètement différente.
Donc il n'y a plus ce qu'on a connu à une époque, le film qui s'arrêtait d'un seul coup et tout à coup il faisait ah, oh! C'était parce que ça coupait.
C'était la pause.
Alors, fallait réparer.
C'est ça. Oui, alors après, avant fallait réparer parce que ça avait cassé, enfin comme on disait ça, fallait rescotcher la pellicule. Et le problème c'est que dans le circuit d'un projecteur de 35 mm, on ne pouvait pas revenir en arrière. Donc il manquait toujours une minute ou même c'était 30 secondes du film, mais ça paraissait au client de se dire mais ça se trouve on en a raté beaucoup puisque le plan pouvait être différent. Malheureusement, il arrive encore qu'il y ait des pannes. Hein. C'est pas parce qu'on est informatisé qu'il ne se passe rien. Et malheureusement, tout à l'inverse, c'est beaucoup plus compliqué quand il y a une panne actuellement de pouvoir redémarrer. C'est-à-dire que quand il y a une panne, souvent la séance elle est annulée parce qu'on ne peut rien faire. L'informatique, là, c'est beaucoup plus complexe à réparer ou carrément à changer parce que ça n'a pas la même durée de vie.
Oui, parce qu'il y avait toute une vie autour du cinéma avec les placeuses, des ouvreuses, des Esquimaux chocolat à l'entracte, etc. C'était tout un environnement particulier, quoi.
Ah oui, moi-même, je me souviens bien quand j'ai commencé, enfin, quand mes parents ont acheté le cinéma, que j'avais, bon, après... À l'âge de 4 ans, 5 ans, j'ai commencé par placer les clients et en plus, ça rapportait. Enfin, bon, il y avait le fait que j'étais une petite fille, mais le fait de pouvoir placer les personnes, même si la lumière était encore dans la salle, de leur indiquer une place parce que justement, il y avait un foule et qu'il fallait placer les gens, eh bien, j'avais droit à ma petite pièce et j'étais très fière d'avoir mon argent de poche grâce au cinéma. Et après, en évoluant, en grandissant, quand j'ai su rendre la monnaie, j'ai vendu les bonbons aussi avec le panier en osier. Là, c'était aussi très intéressant. Financièrement, puisque bon, ma maman avait des ouvreuses, comme on appelait ça à l'époque, qui étaient justement payées au pourcentage sur la vente de la confiserie. Et ça faisait des week-ends avec des petites sommes d'argent très sympathiques. Et donc voilà, et en effet, ça existait.
Alors, avec la pause donc confiserie gourmande, on va faire une petite pause musicale. Entretien avec Madame Bentabé, qui est gérante du cinéma Le Dunois. C'est notre cinéma dunois qui reste, mais qui a quand même trois salles. Les trois cinémas s'étant donc regroupés dans un seul. Alors, il faut une formation maintenant quand même pour faire votre job. Ça a évolué au cours du temps, bien sûr. Vous avez été un peu formé sur le tas avec vos parents.
Oui. Oui, c'est vrai. Bon, pour ma part, j'ai pas réellement de formation cinématographique. C'est vrai que j'ai été baignée dedans toute petite. Avec 4-5 ans, j'ai placé les gens. À 7-8 ans, j'ai vendu les bonbons. À 10-12 ans, j'ai vendu les places de cinéma. Et une fois majeure, j'ai tenu le cinéma pour que mes parents puissent enfin prendre des vacances. Et j'ai fait la programmation. Enfin, j'ai tout appris sur le tas. Maintenant, il est vrai qu'il existe des formations. Alors, de projectionniste, vous avez maintenant des formations de CAP projectionniste, qui sont un petit peu moins lourdes qu'avant puisqu'on n'est plus sur de la manipulation de pellicules. Enfin, voilà, c'est plus informatisé. Mais il existe en effet des formations comme les CAP projectionnistes, Des licences de gestion de management cinématographique, c'est, il y a des formations en effet.
Donc justement, quand vous avez un aspect quand même donc de recherche pour bien programmer les films qui vont votre affaire, bon, faut qu'elle fonctionne, faut qu'elle soit profitable.
Tout à fait.
Donc faut que vous programmiez des films certes qui plaisent au public, mais d'autre part qui présente une certaine rentabilité. Donc, comment vous faites justement pour choisir au film la section ? Parce qu'il y a beaucoup de films. Et comment vous choisissez les films ? Comment vous faites ?
Alors, il y a ceux que, entre guillemets, je ne choisis pas. Ce sont les films importants qui vont être des films qui vont sortir dans beaucoup de cinémas, et notamment à Châteaudun. Donc, ce seront, je ne sais pas, actuellement, ça va être le James Bond, qui est une grosse sortie et donc qui est un succès assuré. Et puis, les gros blockbusters américains, bien évidemment. Les films français, plutôt sur les grosses sorties des comédies, comme pour En fin d'année, Les Tuches, ou même Les Baudins, ou Aline. Enfin, voilà, des films grand public. Donc cela, c'est vrai que c'est ceux qui me font vivre, hein, il faut être clair, puisqu'il faut être rentable, hein, pour continuer à maintenir à flot le cinéma. Et puis après, il y a l'intérêt du cinéma en France, c'est sa diversité. Nous avons la chance d'être dans un pays où nous pouvons nous permettre de passer de tout et d'avoir des gens qui s'intéressent à tous les types de cinéma. Donc après, sur les plus spécifiques, comme les films art et essai, je dirais que c'est un petit peu mon ressenti. Quand j'ai la chance de les avoir vus, c'est pour ça que, bon, de temps en temps, me dire, tu vas te faire des vacances au soleil avec le Festival de Cannes. Il faut savoir que souvent, je ne vois pas la mer ni le soleil parce qu'au Festival de Cannes, j'y vois plutôt des films qui me permettent de pouvoir les montrer après, avoir envie d'avoir eu un coup de cœur, même s'ils n'ont pas eu de palme ni de prix, de pouvoir les montrer à mes clients dans le cadre des festivals, des films à réessai. Donc voilà, donc ces films-là, je sais très bien que malheureusement, ce ne sont pas ceux-là qui vont me faire vivre. Bien au contraire, la plupart du temps, ce sont des séances qui ne sont pas rentables. Mais c'est aussi ça, le cinéma. Je suis là pour montrer plein de choses différentes et c'est ce que j'aime dans ce métier.
Parce que les producteurs, quand ils produisent un film, bon, je me souviens d'un film que j'ai suivi d'assez près, qui était Le Hussard sur le Toit, qui avait été produit par le groupe Lagardère. Et à l'époque, dans le groupe, on disait il faut faire 3,5 millions d'entrées. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'il est rentable. Donc le producteur donc, va suivre aussi. Donc c'est un petit peu ses spectateurs, quoi, parce que c'est important pour un film. Par exemple, quand on dit, quand on prend comme exemple en France la Grande Vadrouille, n'est-ce pas ?
Okay, bon, le plus gros succès, en effet.
C'est un des gros succès. Bon, maintenant, il y en a peut-être d'autres, plus jeunes.
Français, non, pas égalé.
Pas égalé ?
Non.
Donc, c'est quand même plusieurs. Il y a eu le fameux film Bienvenue chez les Ch'tis, n'est-ce pas ? Par dizaines de millions, c'est le moment de dire. Mais c'est extraordinaire quand même d'arriver à faire venir dans des salles françaises 15 ou 20 millions. C'est absolument. Donc le cinéma n'est pas mort.
Ah non, le cinéma n'est pas mort. Maintenant, le souci, c'est qu'il y a certainement beaucoup trop de films qui sortent à aujourd'hui et qui ne sont en effet pas rentables et qui mettent en péril certaines économies cinématographiques. Mais non, le cinéma n'est pas mort. Ce que je regrette juste, c'est qu'il va y avoir des succès. Bon, après, on vient de traverser une crise un petit peu compliquée et la pandémie n'a pas aidé. Mais ce qui est regrettable, c'est que ces succès, comme vous annoncez, Bienvenue chez les Ch'tis ou Les Tuches ou Titanic, hein, parce qu'il ne faut pas parler que des succès français, sont de moins en moins nombreux sur une année. Mais c'est vrai que c'est eux qui permettent de faire fonctionner toute l'économie cinématographique.
Alors, est-ce que c'est, comme à une époque hollywoodienne, est-ce que ce sont les vedettes qui font venir les spectateurs ? Est-ce que ce sont les sujets ? Qu'est-ce qui fait venir le spectateur au cinéma ?
Je pense que de moins en moins, ce sont les vedettes qui font venir les spectateurs. On le voit, vous parliez tout à l'heure des Ch'tis. Danny Boone a eu des films qui ont fait un flop monumental. Donc je ne pense pas que maintenant les gens viennent sur un acteur ou sur un réalisateur. Ils viennent si on leur parle du film. Ça, c'est très important, la communication autour du film, la promotion, elle est hyper importante. Et sur la qualité du film. Si on prend l'exemple d'un film français Intouchable, donc l'intérêt aussi d'être dans le cinéma, c'est de pouvoir pouvoir voir les films bien en amont. Au début, bon, le Gaumont, qui était le distributeur, il croyait, mais moyennement. Enfin, c'était pas non plus, ça devait pas être le succès escompté et qu'on a eu, qui était génial, puisque ça a été une sortie qui n'était pas très, très importante. Moi, j'avais vu le film et je l'avais trouvé super et je voulais l'avoir parce que je trouvais que la comédie était vraiment très, très sympa et bien réalisée. Parce que pour moi, c'est le plus difficile comme de film à faire, c'est une comédie, pour que c'est du rythme et que ce soit drôle d'un bout à l'autre. Et j'avais pas réussi à l'avoir en première semaine parce qu'il ne sortait pas sur beaucoup d'écrans. Et il y a eu une vague de qui est arrivée sur cette première semaine, tellement les gens ont aimé et ont apprécié le film. Donc non, un film, son succès vient de sa qualité, en premier, je pense. Et puis du bouche à oreille et de la communication qu'on fait autour.
Et lorsque... Ah, j'ai perdu le fil de mon idée, là. Oui, lorsque vous faites une petite escapade à Cannes, vous essayez d'aller tous les ans pendant quelques jours.
Oui.
Alors, vous voyez combien de films par jour ?
Ça dépend du nombre de jours que je reste aussi et de la programmation. Ce qu'il faut savoir qu'à Cannes, vous avez en fin de compte un film qui va passer pendant 2 jours et après qui s'arrête en fin de compte puisqu'il y a tellement de films. Mais en moyenne, sur une journée normale, si les films ne durent pas 3 heures, parce que c'est un petit peu le cas en ce moment, je vois à peu près 5 voire 6 films. La moyenne est à 5 films par jour. Donc c'est pour ça que, comme je disais, je n'ai pas le temps d'aller à la plage ou de voir le soleil ou de profiter de Cannes. Surtout que, alors là, Cannes cette année a été très différent et je l'ai dit, ça a été mon plus beau Cannes parce que il faut savoir que Cannes, c'est une chance d'y aller. Mais quand il y a toute une hiérarchie dans l'organisation de Cannes qui fait que nous, les exploitants, nous passons après la presse et après les maisons de distribution. Et donc quand on va à Cannes, on fait la queue. Et on n'est pas toujours sûr de rentrer parce que sur un film où il y a un grand engouement, si la queue est longue, si on n'est pas arrivé assez tôt, on peut faire la queue. En moyenne, on fait pour rentrer dans une salle, on fait la queue pendant 1 heure, 1 heure et quart. Et il arrive qu'à 1h16, on vous annonce que la salle est pleine et que vous avez fait la queue pour rien. Donc il y a aussi tout ce temps d'attente et tout. Sauf qu'avec la pandémie, avec le Covid, on a eu la chance que cette année, ils ont organisé, on n'achetait pas, puisqu'on ne paye pas pour aller voir les films, on réservait nos places en avance. Et du coup, on était sûr que si je réservais un film, j'étais certaine de pouvoir y aller. Ça, du coup, ça m'a permis d'en voir sur le Cannes de 2021, j'en voyais 5 à 6 régulièrement tous les jours.
Parce que du coup, les salles étaient moins pleines, il fallait respecter les distances.
Alors, on n'avait pas trop, non, parce que donc, le masque était resté obligatoire. Nous avions déjà le pass sanitaire qui était mis en place, donc bien avant au niveau public. Mais bon, après, quand vous êtes au Théâtre des Lumières ou à la salle de Bussy à Cannes, ce sont des salles qui ont une capacité de 2500 à 3000 places. Donc, il y avait en effet, c'était assez large pour que tout le monde puisse rentrer en plus. Parce qu'il y avait moins d'inscrits aussi.
Alors, comment ça se passe dans la grande famille du cinéma ? Vous êtes donc complémentaires les uns les autres à partir du producteur, des vedettes, des réalisateurs, des machinistes, et vous, les gens, les exploitants de salles, vous êtes d'une grande famille. Comment ça se passe, vos relations dans cette grande famille ?
C'est comme toute relation, il y a des hauts et des bas. Comme je dis, nous sommes au bout de la chaîne, puisque donc nous sommes le moment où le film rentre en salle et on va pouvoir permettre que le producteur ou le réalisateur puisse rentrer dans ses frais. Après, la dernière étape, ce sera bien évidemment la vente à la télévision ou sur les plateformes pour de la VOD ou de la VAD. Il y a des hauts et des bas. C'est vrai qu'il y a des fois... c'est surtout... Nous, avec les producteurs et les réalisateurs, nous n'avons pas trop de contact. Nous avons surtout le contact avec le distributeur, celui qui va après exploiter le film commercialement. Et là, il y a des fois, c'est tendu, puisqu'ils veulent qu'on ait le maximum de séances, qu'ils soient projetés la plus longue durée dans la salle de cinéma. Donc quand il n'y a pas trop de films, ça va. Quand il y a embouteillage, comme à toutes les périodes, comme en ce moment, avant les vacances, et en plus parce que nous avons été fermés longtemps, donc il y a eu beaucoup de films qui ont attendu pour rentrer, sortir en salle. Et ça, heureusement, c'était une chance pour nous. C'est beaucoup plus tendu parce que on peut pas tout prendre. On nous sollicite, mais on nous demande des conditions qui sont pas réalisables.
Et vous parlez de la tendance actuelle de films qui durent jusqu'à 3 heures. Mais alors... C'est quand même long, 3 heures.
Alors, il y en a pour lesquels ce n'est pas long. J'en ai à le plus important, bah, c'est un de Cannes que j'ai vu, que je vais jouer cette semaine, qui s'appelle Drive My Car, qui est un film que j'ai beaucoup aimé et donc que j'ai passé parce que j'avais un coup de cœur pour ce film quand je l'ai vu. Il fait 2h59, donc en effet. Oui. Et après, là en ce moment, on est à 2h45 avec le James Bond, Mourir peut attendre. Alors oui, il y a des films sur lesquels, quand vous l'avez vu, il y a toujours un petit moment où vous dites, bon là, il aurait pu couper, il y a un peu de longueur, il y a toujours 15-20 minutes de trop. Mais c'est comme ça, ils ont tellement de choses à nous montrer, ces réalisateurs, qu'ils savent pas s'arrêter. Mais il faut savoir qu'un film, quand il est fait, le nombre de rushs à peu près en moyenne que le réalisateur a tourné, c'est presque 4 à 5 heures. Et après, il y a un monteur qui, lui, va retirer tous les plans qui sont superflus, trop longs, des choses comme ça, pour faire un film entre 1h40 et 2h15. Quoi.
Et à une époque, je crois qu'il y avait des films qui se faisaient en deux séances à l'époque.
Oui, c'est arrivé, oui, en effet, qu'il y ait des films avec des suites, en effet, que... Mais même ça existe encore sur les sagas, sur les grandes... Bah, les Star Wars, par exemple, où, en effet, c'est plusieurs épisodes. La nouvelle série qui commence, c'est Dune, où, à la fin du film, on comprend bien qu'il va y en avoir un autre. Et puis, de toute façon, Dune, c'est trois livres importants. Ça existe toujours, d'avoir des séries. Maintenant, sur la durée du film... On ne fait plus d'entracte non plus, donc quand même, ils essaient d'être restés raisonnables et que maximum, on est sur 2 heures, quoi.
Alors, quand vous êtes à Cannes, quand même, vous êtes là, on va vous monter ce tapis rouge, là, ces marches, là. C'est pas quelque chose de fabuleux, de...
Non, c'est
pas dans...
Oui, hein. derrière des grands acteurs et tout, si. Alors bon, faut quand même savoir que quand on monte à Cannes, le Kidam monte au milieu des marches, pas tout en bas où il y a tous les... Alors ça arrive cette année parce qu'il n'y a pas trop de monde, ça m'est arrivé, mais bon, les journalistes du coup arrêtent de prendre des photos parce que ça les intéresse pas. Mais autrement, donc oui, c'est bon, mais... Après l'après-midi, je peux aller monter les marches aussi, le tapis rouge, le voir à 8h le matin pour la séance du matin ou à 14h pour la séance d'après-midi où il n'y a aucun journaliste, où il n'y a pas les talons aiguilles et les robes à strass. Et c'est tout aussi agréable aussi, mais c'est vrai que c'est une fierté, c'est une chance que j'ai que tout le monde n'aura pas. Maintenant, après, au niveau technique et vestimentaire, il faut avoir les talons hauts, la robe. C'est moins mon truc, mais bon, l'intérêt, c'est de voir le film.
Mais est-ce que les vedettes n'ont pas tendance, quelquefois, à snober un petit peu les gens comme vous qui, en fin de compte, sont les chevilles ouvrières du cinéma?
Ah oui, bien sûr. Bah, surtout les grosses vedettes internationales, on ne les côtoie pas. En plus, il faut savoir qu'il y a une hiérarchie. Quand on monte les marches, après arriver dans la grande salle des Lumières, il y a ce qu'on appelle l'orchestre, où sont tout le gratin pour les soirs où il y a les montées de marches. Et puis en haut, il y a le balcon, que j'appellerais plutôt un poulailler, où sont le commun des mortels, où nous sommes. Donc on ne se croise que très rarement. À la sortie de salle, on arrive à se croiser. Et puis après, il y a des jeux, c'est d'aller essayer de les rencontrer, essayer d'aller faire un selfie et tout. Au début, j'étais pas très fan et puis bon, je m'y suis mise parce qu'avec avec certaines amies de la profession, on se fait des challenges, savoir combien on réussira à avoir de selfies pendant le festival, qui aura gagné cette année, enfin voilà, des choses comme ça.
Oui, j'ai vu que vous aviez approché Mademoiselle Cottin, c'est ça?
Oui, j'ai fait quelques selfies sympas avec Camille Cottin, avec Cécile de France, avec des stars américaines aussi, avec Will Smith, enfin voilà, donc voilà, c'est la petite fierté. De temps en temps, je dis, allez, hop, on y va, on joue.
Et maintenant, pour l'avenir, il est question de créer un grand multiplex à Châteaudun, dans le site de la GSP, qui était une usine de machines-outils, qui a hélas fermé dans les années 1975 à cause de la concurrence. Alors, ce multiplex qui est toujours dans les cartons.
Ah oui, complètement. Ça reste un de mes projets. Bon, après, il y a eu un gros coup de frein avec toute cette période que nous avons vécue. Mais je pense que je garde foi dans mon idée de pouvoir... Alors, grand multiplex, c'est passer de 3 à 5 salles. Ça reste assez modeste. Mais je suis quand même à l'étroit actuellement. C'est vrai que le bâtiment vieillit. Et je pense que... faire quelque chose de plus joli et de plus technologique ailleurs, puisque là, je n'en ai pas la place. Donc, le projet reste très, très, très d'actualité. De toute façon, j'ai eu de nombreux rendez-vous là sur ces 3 dernières semaines à son sujet. Et il me tient toujours à cœur. Maintenant, bon, il faut rester... je dirais, faut que je reste assez, assez pragmatique et voir que ne pas faire n'importe quoi et rester prudente au niveau économique, parce que c'est un très gros investissement et mieux vaut avoir un petit cinéma qui fonctionne plutôt qu'un grand qui est fermé.
Justement, sur, en termes de business, sur la, lorsqu'on construit un cinéma comme ça, vous prévoyez des retours sur investissement sur combien d'années ?
Aujourd'hui, maintenant, on part sur une durée... À l'origine, c'était 7 ans, mais on est sur 15 ans maintenant. Bien.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christine, d'être venue nous voir pour nous raconter ce cinéma qui nous fait vivre tous et que nous aimons beaucoup.
Merci de m'avoir invitée.